message pour ce matin, un verset dans le psaume, « Je marcherai dans ta fidélité ». Waouh ! Ce verset contient tout, tout ce que le Saint-Esprit a pu nous dire depuis plusieurs mois. Permettez-moi de remettre un peu de vous rafraîchir un peu l'esprit. Si nous analysons ce que veut nous dire le Saint-Esprit depuis plusieurs mois, on constate qu'il a commencé à nous orienter en nous disant « Dieu est fidèle ». La fidélité de Dieu, elle est permanente. C'est une fidélité constante. Qu'on soit fidèle ou non, lui est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Et ça ne changera jamais. Il est fidèle. Ensuite, le Saint-Esprit nous a conduit à considérer que la clé de la victoire est dans l'obéissance. Alors, si vous n'avez pas entendu ces messages du mercredi, procurez-vous les cassettes. C'est édifiant. La clé de la victoire se trouve dans l'obéissance. Mais il y avait des obstacles à l'obéissance. La rébellion et la peur. Pour cela, le Saint-Esprit nous a conduits à considérer d'abord la peur. Il nous a dit que « J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. Et n'ayez pas peur. Balayez la peur. » Voilà. Ça a été le grand mouvement du Saint-Esprit. Tenir ferme. Et c'est nécessaire de tenir ferme pour vaincre la peur. Jésus a vaincu le monde. Il nous a ensuite conduit à considérer la fidélité sur un autre plan. La fidélité dans la relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Fidélité qui entraîne la confiance. Et le Saint-Esprit a besoin de cette confiance pour agir en nous. C'est dans cette confiance que le Saint-Esprit va nous donner ce que nous avons besoin de savoir, d'apprendre, de changer en nous. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit agisse en nous, on a besoin de comprendre cette fidélité qu'on doit au Seigneur dans l'obéissance. Récemment, le Saint-Esprit nous a conduit à considérer la fidélité dans la relation du mariage. C'était la suite. La suite de ce que le Saint-Esprit voulait nous apporter, nous donner. Et cette relation dans ce mariage, c'est la relation que Dieu a avec nous et que Jésus a avec sa fiancée, son Église. C'est la même chose. C'est une fidélité réciproque. Fidélité de Dieu dans ses promesses. Fidélité de l'épouse dans l'obéissance. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut continuer dans ce même flot. Il a envoyé Christ. Pourquoi ? Pour nous sauver ? Oui. Mais Christ, il a envoyé 100% humain. Il a envoyé 100% humain pour qu'il nous montre que 100% humain, il a été fidèle jusqu'à la mort à Dieu. Il a obéi, il a été fidèle dans l'obéissance. Oui, on peut le faire. Christ l'a fait. Il a ouvert la voie, il nous a montré. On peut être ses imitateurs, on peut le suivre. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur nous dit qu'il est fidèle dans ses promesses. Et il veut que nous soyons, nous aussi, fidèles dans l'obéissance. On ne peut plus accepter de compromis sur ce plan-là. Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans la fidélité. Non, Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta fidélité. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Dans ce verset, il y a Dieu est fidèle. Et je veux que toi, tu marches dans la même voie. La voie de la même fidélité. Alléluia. Et c'est ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Pour son Église qu'il aime, je marcherai dans la fidélité. Dans ta fidélité, Seigneur. Oui. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous entendre dire. Alléluia. Oui, tu dois être fidèle dans l'obéissance. Trop longtemps peut-être, tu es resté devant des obstacles en disant « Oui, mais Seigneur, je ne peux pas, c'est un obstacle. » Trop longtemps. Et maintenant, le Seigneur vous dit « Je vais t'aider. Je vais vous aider. » Voilà ce qu'il dit le Seigneur. « Ok, c'est un obstacle, mais moi je suis là. » Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que devant un tel message, on ne peut pas ne pas être impressionné. Alléluia. Et même si nos habitudes sont bouleversées ce matin, ben je suis convaincu que c'est le moment d'en parler, que c'est le moment de prendre une décision. Vous avez entendu Lorraine ? C'est la même chose. Le Saint-Esprit parle de la même chose. Il parle au travers de tous les serviteurs. Et il parle dans votre cœur. Ce message-là, vous le recevez dans votre cœur. Vous le jugez. C'est vous qui considérez, qui allez considérer si c'est le moment. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit témoigne dans votre cœur. Et ça, c'est un encouragement. C'est magnifique. Alléluia. Et c'est maintenant, c'est pour maintenant. Alors, c'est sûr, nous avons peut-être des choses à changer, mais nous avons la possibilité de nous juger nous-mêmes. C'est magnifique. Nous avons encore la possibilité de nous juger nous-mêmes, de nous regarder, de le faire en douceur. Waouh, le Seigneur est bon. Waouh. C'est peut-être le moment de couper des choses que l'on traîne depuis trop longtemps. Aujourd'hui, il y a peut-être une décision à prendre. Pour ma part, je le ferai. Ce qui a coupé, je le couperai. Alléluia. Parce que le Seigneur veut notre obéissance parce qu'il veut nous bénir. Alléluia. Oui, Dieu désire nous bénir. Il nous a bénis déjà, autant qu'il peut le faire, autant qu'il a pu le faire. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Alors, dans ce message, prenez ce qui est bon, ce que l'Esprit témoigne dans votre cœur, qui est bon, et ne le laissez pas dans un coin. Faites-le travailler. Alléluia. Que ce soit une action, que ce soit un go, va, avec toute la puissance du Verbe. Alléluia. La fidélité est nécessaire pour que Dieu puisse nous amener tous à une autre étape, à la prochaine étape. Mon seul but ce matin, c'est donc d'éveiller en vous, dans votre intelligence, ce désir de vous examiner profondément, de laisser le Saint-Esprit vous diriger là où il a envie de vous toucher, vous montrer. Alléluia, pour votre bien. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas simplement un changement, c'est peut-être une réorientation. Peut-être que il y a juste un petit mouvement à faire, se remettre là, où le Seigneur veut que vous soyez la bonne vision. C'est peut-être pas grand-chose, mais il faut le faire. C'est quoi votre priorité ? C'est ça la question. C'est quoi votre priorité ? Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas compliquer les choses. Au contraire, il va les simplifier. Il va vous expliquer dans votre cœur. Il va les rendre claires. Si vous ressentez quelque chose dans votre cœur qui est trop compliqué, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. On va rentrer dans le message. C'était une petite présentation, préparation. Quelle définition de la fidélité ? La fidélité qu'on donne maintenant, c'est peut-être pas la même chose que la fidélité que l'on trouve là, dans notre Bible. Si on regarde en hébreu, la fidélité est traduite par le mot amen, A-M-A-N. Et ça veut dire essentiellement être enraciné, être digne de confiance, se tenir solidement, ancré. En grec, le mot fidélité est le même que le mot foi. La fidélité et la foi, c'est la même chose. On donne à la fidélité la même signification de la foi. Et fidèle, celui qui a la foi. Alléluia. En fait, fort de tout ça, on peut essayer d'expliquer ce qu'est un homme fidèle aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va être digne de foi, quelqu'un qui va être loyal, qui est constant dans ses actions, qui est sincère, qui est exact, qui est sûr. On peut lui faire confiance, il est sûr. Digne de confiance. C'est quelqu'un qui va remplir exactement ses devoirs, qui va remplir tous ses engagements et qui va tenir sûrement ses promesses. Alléluia. La fidélité, c'est un attribut de Dieu. Ah, c'est le premier mot. C'est un attribut de Dieu. Ça fait partie de sa nature. Dieu ne peut pas être autrement que fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il a dit qu'il était fidèle. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9, Dieu, fidèle, garde son alliance. Alléluia. On le retrouve dans Hébreu, chapitre 10, verset 23. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, la fidélité est un attribut de Dieu. Et qui ne va pas dépendre de son alliance. Il ne va pas dépendre de l'ancienne alliance ou de la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, c'était présent déjà. Et Jésus d'ailleurs reproche aux pharisiens de ne pas l'avoir compris. Dans Matthieu 23, 23, Jésus dit, vous avez laissé ces choses importantes de la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est celle-là qu'il fallait faire. Ces choses-là qu'il fallait faire. Dieu attend de nous une foi persévérante, une conduite constante, loyale, à toute épreuve, quelles que soient les circonstances. C'est un attachement à Dieu, un attachement exclusif, sans réserve. Et c'est sûr qu'une telle relation nécessite une fidélité réciproque de part et d'autre. Dieu ne peut pas se renier. Dans Timothée, 2 Timothée 2, Dieu dit, si nous sommes infidèles, et nous le sommes souvent, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est important de comprendre que la fidélité, c'est une partie des attributs de Dieu, et que c'est immuable. Dieu est toujours fidèle. La fidélité, ça fait partie aussi de l'enseignement de Jésus. C'est le deuxième petit mot. Jésus nous a enseigné la fidélité. Il est venu nous enseigner la fidélité. Et c'est sûr que ce n'est pas simplement un caractère divin, parce que Jésus était 100% homme. Il a été fidèle à son Père jusqu'à la mort en tant qu'homme. Dans Hébreux 2, verset 17, il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, à nous. afin qu'il puisse être fidèle, fallait qu'il soit homme. Que Dieu puisse démontrer la fidélité qu'il attendait de nous, qu'il attend de nous, qu'il veut de nous. Alléluia. C'est sûr que cet attribut de Dieu est un véritable encouragement pour nous. Oui, c'est possible. Alléluia. Jésus a une fidélité envers nous aussi, envers son Église, envers son épouse. Une fidélité qui est active et pas passive. Jésus prie pour nous. C'est une fidélité active. Il prie pour nous, il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. On a cette assurance. Merci Seigneur. Dans Jean 17, à partir du verset 6 jusqu'à 19, Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour la fidélité de ses disciples. Vous l'avez sur le papier, Jean 17. C'est magnifique, Jésus prie pour la fidélité de ses disciples. Et vous savez quoi? Dieu l'exauce. Il exauce de deux manières. En préservant les disciples et en les sanctifiant. Alléluia. On le voit dans Jean 17, verset 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité, par la parole, sanctifiés par la parole, qui est la vérité. » Alléluia. Jésus cherche des hommes fidèles. Jésus a formé des hommes fidèles. Et Paul, quand il nous parle dans 2 Timothée 2:2, quand il dit à Timothée, « Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confilés à des hommes fidèles ?» Confilés à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner à d'autres. Pourquoi? Parce que Paul savait que la parole peut être travestie, confiée à des hommes fidèles, sûrs, des hommes exacts, intègres, dignes de confiance, afin que la parole ne soit pas travestie. Alléluia. Mais la fidélité, c'est notre bagage. C'est le fruit, c'est un des fruits de l'esprit. On a la fidélité dans nos poches lorsqu'on est de nouveau. Alléluia, elle est là. Elle n'est pas à côté, il ne faut pas la gagner. On l'a. Elle est là. Là. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, c'est beau. La fidélité, c'est en plein dedans. J'en rêve pas. C'est dans Galates 5, 23. Vous savez, il y a aussi une récompense dans la fidélité. Waouh ! Deux récompenses. Pas une, deux. Premièrement, sur la terre. Dans Luc, il est dit, Luc 19, verset 17, « Et lui dit, bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses et l'autorité sur 10 villes. » Quelle promotion par la fidélité. C'est vrai que Proverbe 28 disait déjà « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » Alléluia. C'est pour nous. Ouh. Et on a aussi une autre récompense qui, elle, est éternelle. Ouh. Waouh. Dans le ciel. Waouh. C'est la récompense que Paul a attendue, que Paul a cherchée. Alléluia! C'est cette couronne dans Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à la mort terrestre, mais la vie éternelle, et je te donnerai la couronne de vie. » Youhou! ça, c'est bon. Et c'est pour l'éternité, vous savez. Mes amis, c'est pour l'éternité. Wouhou! Et c'est pas difficile de rester fidèle. Quand on est en communion avec le Seigneur, quand on est en permanence en communion avec le Seigneur, pas difficile d'être fidèle. C'est pas difficile. Dans 1 Jean 3, verset 6, il est dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. » Plus de péché si je demeure en lui. Facile d'être fidèle. Beau slogan, hein ? Vous voyez pas ? C'est le slogan de notre Église. Youhou ! Alléluia ! L'alliance de sang que le Seigneur a fait avec son Église, que notre époux a fait avec nous, sa fiancée, s'exprime par la fidélité, comme dans le mariage entre un homme et une femme. Ces messages qu'on a entendus, c'est la voie pour que nous puissions avoir toutes ces bénédictions. On doit rentrer là-dedans. Oh, même si ça fait mal. Mais rappelez-vous, si vous êtes en lui, ça ne vous fera pas mal. Ça ne vous fera plus mal. Ouh. Alléluia. Il est important que l'épouse de Christ soit fidèle. Aussi pour le monde. Le monde a besoin de nous. Et la Bible le dit. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Oui, nous sommes considérés comme fous dans le monde. Ils ne nous comprennent pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Et la Bible dit Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les hommes sages. Oui, mais nous devons être là pour le faire. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Sommes-nous tous fidèles ? Oh ! Sommes-nous vraiment tous fidèles ? Il y a des obstacles. Je crois que le Seigneur aujourd'hui, vous nous montrez ces obstacles. Peut-être pas pour que on en ait honte, je ne crois pas, mais plutôt pour que on comprenne qu'il n'y a pas de condamnation en Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Il veut notre pureté, notre sanctification. Il veut nous voir purs devant lui. Et des fois, ben, il faut se regarder en face. C'est peut-être bon de regarder quels sont ces obstacles pour qu'on puisse vraiment se tenir à l'écart. Oh, attention là. Non. Là, non. Je reste ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Le premier obstacle, c'est, on pourrait le regrouper. Enfin, le Seigneur m'a montré trois obstacles, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ce matin, il y a trois obstacles majeurs que le Seigneur veut vous montrer. Il m'a montré, c'est sûr que je n'étais pas fier non plus, mais il faut en parler. Alors prenons-le en prenant courage et prenons-le à deux mains. Premièrement, c'est l'égoïsme et tout ce qui découle de l'égoïsme. Le Seigneur, il vous dit, extirpez toute racine, toute trace d'égoïsme. L'égoïsme nous pousse à suivre, à jeter nos regards, à jeter nos yeux vers l'attraction que peut présenter le monde. Regardez ce que dit Genèse 19, verset 26. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Mais pourquoi la femme de Lot n'a pas obéi à Dieu? Pourquoi n'a-t-elle pas obéi à Dieu? Parce qu'elle avait laissé son cœur de l'autre côté, derrière elle. Son cœur n'était pas là. Il était dans l'enceinte de la ville, de Sodome. Et ça, c'était pour elle un tel attrait. Son désir était de rester dans Sodome, de rester dans le monde, par égoïsme, par goût du lucre. lui est arrivé. Même chose pour cet homme riche. Cet homme qui a entendu Jésus, qui a été subjugué par Jésus, je l'imagine très bien, qui a dit « Oh, c'est magnifique ce qu'il dit, c'est la vérité ». Je pense qu'il a été touché dans son cœur. Et il vient voir Jésus, il lui dit « Seigneur, que dois-je faire pour te suivre ?» Il avait vraiment envie de suivre. C'est sûr. Et dans Marc, parce qu'on le trouve également dans Matthieu et Luc, mais dans Marc, c'est plus précis. Je pense que c'est... Prenez donc Marc 10, à partir du verset 21. Et là, on voit, qu'a fait Jésus ? Jésus, il a regardé. Il a eu compassion de lui, parce qu'il a tout de suite vu le problème. Mais il a eu compassion de lui. Il l'a regardé. Regardé profondément dans son cœur. Et il a vu. Et il rajoute le Seigneur... Et il l'aima. Or, il a eu compassion de lui. C'est sûr qu'il a eu compassion de lui. Et il l'aima. Et il lui dit, une chose te manque. Et c'est quoi cette chose? C'est qu'il portait l'amour de l'argent avant l'amour de Dieu. C'était son number one. C'est pas Dieu qui en envoie. Et Jésus savait cela. Et quand il lui a dit, mais il faut que tu ailles vendre tout ce que tu as et que tu le donnes aux pauvres, c'était pas pour lui dire, il faut que tu sois pauvre. Non, non, non. C'est pour lui dire, ça, ça te bloque, ça t'empêche de venir me suivre. C'est ça qui te bloque, mon ami. Alors coupe-le. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà ce que nous dit la Bible. C'était trop fort pour lui. Il n'a pas pu, il a cédé. Comprenez bien que l'argent n'est pas mauvais. L'argent a été fait par Dieu. L'argent appartient à Dieu. Vous savez quoi aussi? L'argent n'est plus au ciel, il est sur la terre. Dieu nous l'a donné. L'argent n'est pas mauvais. Mais lorsque l'argent devient notre amour, et qu'on le place au plus haut niveau, là, il faut choisir Dieu ou maman. C'est un obstacle. L'égoïsme, ça peut aussi vous fermer le cœur. La Bible dit, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Tombera dans le malheur. Dans Proverbe 28. Et des fois, on endurcit son cœur sans vraiment s'en rendre compte. On dit, oh mais moi, j'ai plus besoin d'église. Moi, je sais tout, j'ai pas besoin d'église. Oui, mais en disant ça, on ferme son cœur. On ne pense pas qu'il y a des gens dans l'église. Des bébés, Christ, qui ont peut-être besoin de vous. Alors vous allez leur fermer la porte. L'égoïsme. On devient insensible. C'est manquer de miséricorde. C'est ne pas avoir de sensibilité. De partager. C'est rejeter la compassion. Et pourtant la Bible est claire. En Proverbe 4, verset 23, elle dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui... » que sont les issues de la vie. L'égoïsme, c'est aussi une racine pour la rébellion. Elle peut entraîner la cupidité. Et la cupidité, c'est une racine de la malhonnêteté. Oh, on est loin de la fidélité, là. Alléluia. D'autres obstacles, la distraction. Donc là, c'est distraction, le mot. D comme distraction. C'est quoi la distraction? La distraction, c'est quand on est détourné de notre but. Quand on détourne nos yeux de Christ. Les bonnes habitudes qu'on a prises, elles vont péricliter petit à petit. On ne se rend pas compte. C'est sûr qu'on est trop occupé à faire autre chose. Et inévitablement, on se détourne de Dieu. On n'a plus le temps. Plus de temps pour le culte. Oh, c'est trop tôt. Plus de temps pour les réunions. J'ai mon travail, vous comprenez. Mes loisirs. Je suis trop fatigué, de toute façon. Ça arrive vite. Et ça se termine par quoi? Par la paresse. Une autre chose. Chacun de nous, nous savons que nous avons une place dans l'Église. Cette place, personne ne peut vous la prendre. Personne. Elle vous est réservée. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un prétexte, si vous ne la trouvez pas dans une église, pour aller ailleurs, et encore ailleurs. Ah ben, c'est pas ma place. Je n'ai pas de place ici, je m'en vais ailleurs. Ne prenez pas ça comme prétexte. Le résultat, c'est que sans attachement à une église, nous ne pouvons pas être fidèles. Alléluia. La fidélité requiert une constance. Ne cherchez pas votre place toute votre vie. Trouvez-vous une église qui correspond correctement à votre sensibilité. Et là, faites le nécessaire pour que votre place, le Seigneur la crée. Il l'avait prévue depuis toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia. L'engagement est nécessaire pour la fidélité. Il faut être attaché à une église locale. Il faut être ancré. Même plus que ça, il faut être enraciné. Enraciné solidement dans son église. Et là, on peut être efficace. C'est quoi la différence? La différence, c'est que, dans un premier cas, on va rechercher une église parfaite qui va tout nous donner. Ah, c'est bon. Mais, à un moment donné, la lune de miel va tourner au vinaigre, et puis on n'est plus bien, et puis, ah ben je vais voir ailleurs. Pour moi, je dis que c'est de la confusion, ça. Pas pour nous. Dans l'autre cas, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord chercher ce qu'on peut apporter à notre Église. Ah oui. Notre Église n'est pas parfaite, nous non plus. Mais on peut grandir ensemble. Yahoo! Et pour ça, il faut s'y accrocher. Et faire tout notre possible pour la faire avancer, notre Église, avec nous. Pour la faire grandir. Alléluia! Oui, nous serons assez enracinés pour diriger nos yeux vers la vraie source. La vraie source, c'est Jésus. Alléluia! Et là, nous trouverons notre place. Je vous le garantis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans Colossiens 2, verset 7, on trouve « Marchez en lui, enraciné et édifié et affermi selon ce que vous avez été enseigné, selon ce qui a été, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. » Soyez A-I-M-E. A-I-M-E. Ça veut dire? Bien. C'est bon. Waouh. Je crois qu'on peut passer à un autre obstacle. On vient de le franchir, celui-là. Merci, Seigneur. Youhou. L'autre obstacle, c'est le découragement. Oh là là. Vous savez que le découragement, c'est le piège favori du diable. On a prié, on est confiant, c'est long à venir. Et on se décourage. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'ennemi arrive là, il arrive en petite culotte courte, courant. Et puis, tu vas jamais y arriver. Non. Non, c'est faux tout ça. Ce sont des mensonges. Alléluia. Vous savez, c'est pour cela qu'il faut s'attacher à une église. La Bible est claire là-dessus. L'église a une mission vis-à-vis des frères. Parce que lorsque l'un est bas, l'autre va le redresser. Alléluia! Merci pour notre église locale! C'est une assurance! alléluia, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, je vais lire une seule traite, on vous exhorte, frères, à consoler ceux qui sont découragés. Venez en aide aux faibles. C'est une mission de l'Église. Et c'est bon de faire partie d'une Église. Alléluia. Jésus doit rester notre modèle. Nous sommes des imitateurs de Christ. Merci Seigneur, je suis un imitateur de Christ. Dites-le, je suis un imitateur de Christ. C'est bon d'entendre. Alléluia. Je suis excité ce matin. Mais c'est bon, c'est pour la bonne cause. Alléluia. Suivons le Seigneur pour que nous ne puissions jamais être découragés. Prenons courage. Ça me rappelle un message. Alléluia. Non, pas le temps de se décourager. Je fonce. Un autre obstacle, et celui-là, il est gros, c'est l'offense. L'offense. Ah ouais. L'offense, c'est quand vous vous faites pourrir la vie. Pourrir la vie. Le mot n'est pas fort. Par les offenses, la parole vous dit que vous pouvez tout supporter. Il faut que ça devienne une habitude pour nous. On doit tout supporter. Ne vous faites pas dominer par quelque chose que vous considérez comme trop grand. Parce que si vous le faites, vous serez l'esclave de cette chose. Voulez-vous être l'esclave d'un problème qui vous pourrit la vie? Non, je ne serai pas l'esclave de ce problème qui me pourrit la vie. Alléluia. Non, il ne me dominera pas. Si l'offense vous domine, vous risquez de vous écarter de la voie. Vous ne marchez plus dans l'amour. Vous ne marchez plus dans le pardon. Et ce qui est énorme, c'est qu'en plus de cela, vos frères ne peuvent plus vous aider. Parce que vous allez bâtir des forteresses, des murs, entre vous et vos frères. La Bible le dit, dans Proverbe 18, verset 19, « Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. » C'est fini. Vous coupez la route. Il ne faut même plus vous parler. Vous êtes offensé. Lorsque vous êtes attaché au corps du Christ, le corps du Christ se réjouit. Mais lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. 1 Corinthiens 26, verset 26, chapitre 12, il me semble. Vous devez l'avoir, là. L'offense est une amertume. Pas bon à voir, hein. C'est un fiel, encore moins bon. C'est un poison, définitivement pas bon. Merci Seigneur, je n'ai pas prévu de parler comme ça. Mais... Ouh, ne tombez pas dans le piège du diable. Mais de la même manière, veillez à ne pas être une occasion de chute pour votre frère, en offensant quelqu'un. Si vous offensez quelqu'un sans le vouloir, demandez pardon tout de suite, allez le voir. Passez au-delà de la barrière avant qu'il la monte trop haut. Ne soyez pas une occasion de chute pour votre frère. La Bible est claire là-dessus, très claire. Dans Marc 9, verset 42, « Et quiconque sera une occasion de chute pour l'un des petits qui croit en moi, mieux vaudrait qu'on lui mit au cou une pierre de quoi ? De meule, et qu'il se jette dans la mer ?» Non, pas question. Alléluia. Mais c'est la même chose pour le scandale. Rejetez tout scandale. Ne soignez ni l'objet du scandale, ni celui qui le révèle. C'est vrai que l'amour couvre une multitude de péchés. Pensez-y. Vous savez que Dieu vous a pardonné tellement plus. Matthieu 18, verset 7. « Malheur au monde qui cause des scandales, car il est nécessaire que des scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Waouh ! Seigneur, nous avons tant à apprendre de toi, Seigneur. Tant à apprendre encore. J'en ai fini pour le message d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'on prie maintenant pour... Alléluia. Merci Jean-Charles. Bon, qu'on prie là-dessus. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Seigneur, tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté, tu es riche en fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur, qui s'enracine en nous. Oh oui, Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur, en marchant dans l'obéissance. Nous voulons être fidèlement attachés à ton Église. À ton Église, Seigneur. Et ça prend notre Église locale d'abord. Ta parole dit que tu honoreras celui qui t'honore, car tu es un Dieu fidèle. Nous savons que nous pouvons compter, Seigneur, sur tous les bienfaits qui sont dans ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous décidons de résister, Seigneur, à l'égoïsme et tout ce qui découle de l'égoïsme. La rébellion, Seigneur. Manque de pitié, manque de miséricorde, manque d'amour, manque de pardon. De résister à la distraction des choses du monde qui sont brillantes mais qui amènent à la chute, au découragement. Non, nous voulons être fidèlement ancrés, Seigneur. Fidèlement ancrés. Alléluia. Non au découragement. Seigneur, nous décidons de ne pas tomber dans l'offense, Seigneur. Que l'offense coule en nous, nous atteigne pas. Oui, Seigneur. Parce que quand nous sommes offensés, celui qui nous a offensés a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin de bénédiction. Ça doit être notre attitude. Alléluia. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Et je marcherai dans la fidélité, dans ta fidélité, Seigneur. Amen. Alléluia. Si vous venez ici pour la première fois et que vous avez le cœur disposé à reconnaître Jésus comme votre serviteur, si vous êtes prêt à donner votre vie pour Jésus, pour le salut, je vous demande, tous les autres à la tête baissée, je vous demande de le signaler discrètement afin qu'on puisse prier pour le salut. Tous ensemble, d'un cœur réuni, dans une église fraternelle, on va prier ensemble pour le salut. Père Céleste, je m'adresse à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je mettrai aucun dehors. » Je crois que tu acceptes ma prière. Ta parole déclare aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je fais appel à ton nom, Seigneur, et je sais que je suis sauvé. Ta parole dit aussi que si je confesse de ma bouche Jésus comme Seigneur, que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre justice dans ton trône de grâce. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur et mon Maître. Amen.